like to think of myself as atemporal, and I don't belong to any one thing. I think the 70s are still here. They might just be covered up by a couple coats of cheap paint.
Don't make me over.
Pop baroque, un courant qui, à partir de la période psychédélique, a vu se mêler les chansons pop à des orchestrations symphoniques.
And then I bring my...
Donc je mets ça en place, ensemble. Après, j'envoie donc le fichier à mon producteur, Rick. Et c'est lui ensuite qui va produire l'arrangement musical et tout.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonsoir à tous, vous écoutez la série musicale sur France Culture, une émission en une heure, une émission libre de tous les récits, de toutes les audaces, de toutes les stylisations, de tous les vibratos de cordes, une heure de radio sur la musique, en musique, avec de la bonne musique, bienvenue. Des orgues, des cordes, des réverbations, audacieuses et chéries. C'est sur l'immense immensité de l'italien Andrea Laszlo De Simone que l'on chérit ici à la série musicale que s'ouvre ce nouvel épisode en forme d'éloge, d'ode à la pop orchestrale ce dimanche. Dans un monde où la majorité de la musique pop mainstream s'abreuve à la source de sonorités électroniques, ou en tout cas très analogiques, flirte avec le rap, avec le reggaeton, ou bien s'ancre dans une tradition de la country assez simple, comme le montre le succès inouï de Taylor Swift, en tout cas outre-Atlantique, on avait envie de saluer trois des artistes qui nous paraissent être les plus intéressants de leur génération et qui ont sorti ces dernières semaines des albums, des titres, qui font eux le choix de proposer exactement l'inverse, c'est-à-dire une pop profondément orchestrale, même si elle n'appartient pas toujours à la même tradition, on va l'entendre. En tout cas, une pop au son hyper travaillé, mais souvent très organique, une pop élégiaque, où la voix de l'artiste se perd dans les cordes, les orgues, parmi les vents, parmi les chœurs. Il s'appelle ou elle s'appelle Lana Del Rey, Wasteblood ou Andrea Laszlo De Simone, justement. Et s'ils prennent le contre-pied du son mainstream dans lequel ils s'inscrivent en revanche dans une très longue tradition. Une tradition dont il est très difficile de définir les limites, d'imaginer la généalogie, celle de l'orgue pop, pour pop orchestral en anglais, qu'on a aussi appelé en français pop baroque ou chamber pop, en référence à la musique de chambre, qui a connu ses heures de gloire, un âge d'or, disons-le, dans les années 60, quand pour la première fois, la pop s'est entichée de la musique classique pour notre plus grand bonheur et pour le plus grand succès de ceux qui s'y sont essayés. Quoique, on entendra aussi ici des artistes devenus cultes bien après la sortie de leurs albums. Alors, qui sont ces pionniers d'hier et d'aujourd'hui? Que cherchait-il à faire en organisant ce mariage délicieux de guitare, de batterie, de cordes et de chœurs, de Burt Bacharach à Lana Del Rey et Waze Room, ode à la pop orchestrale dans la série musicale.
Thank you.
sete o di fame o di depressione, di ipocondria o di delusione, di odio sociale, di rassegnazione o di religione. Giovane età, ormai in pensione, per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, male d'amore o un colpo di sole. Spoglie, nessuno sa che cosa accadrà. Soffia vento freddo sopra i nostri giorni e dietro le porte armati di sogni, aspettando che torni. La nostra vita
I nostri giorni, le nouveau titre, en tout cas le dernier dévoilé par l'immense Andrea Laszlo de Simone dans un coffret qui rassemble quasiment tous les titres de son précédent album, L'Immensità, qu'on entendait en ouverture, ainsi qu'un titre Vivo, deux titres, Vivo et Nostri Giorni, celui que vous venez entendre, qui font allusion à la période douloureuse du coronavirus. Et oui, on aurait pu avoir l'impression, en écoutant cette chanson, qu'elle datait des années 70, absolument pas du tout, car Andrea Laszlo de Simone fait partie de cette scène hyper intéressante, très audacieuse, et qui poursuit un chemin solitaire mais extrêmement remarqué. Andrea Laszlo de Simone, qui a à peine une trentaine d'années, qui avait décidé de mettre fin à sa carrière, mais semble revenir sur ses pas pour notre plus grand bonheur, qui, avec sa silhouette à la Franz Zappa, vient pourtant du rock le plus pur, en tout cas le plus simpliste, quand il avait une vingtaine d'années. La preuve en est, on a souvent comparé l'œuvre de Laszlo de Simone à celle de Maneskin, ce groupe de rock italien, rock pur, qui a gagné l'Eurovision l'année dernière, qui, lui, s'appuie sur une instrumentation assez classique, c'est-à-dire deux guitares, une batterie, une basse. C'est vous dire le lien. Et pourtant, au cours des cinq dernières années de sa carrière artistique, Laszlo de Simone s'est largement orchestrisé, comme vous l'entendez ici. Ici, nous avons ce fameux Immensità Orchestra qu'il avait monté pour son dernier album. On y retrouve évidemment toutes les grandes stars de l'orchestre. Ce titre s'ouvre quand même sur un solo de clarinette absolument inouï, audacieux et pas si attendu que ça. Il s'enrichit pour ce titre de mandoline, évidemment de cordes, de chœurs extrêmement lancinants qu'il utilise en les réverbérant énormément. Il y a donc à la fois un son profondément organique, très élégiaque, et tout l'appel possible à la technologie. On est véritablement dans de l'arc pop façon 2022. Mais qui sont ceux qui ont inventé cette pop orchestrale à laquelle on tient beaucoup et qui aujourd'hui est à nouveau investi par des figures plus ou moins singulières et plus ou moins mainstream? Ceux qui l'y ont pensé en tout premier lieu, eh bien, c'est les pionniers de la musique pop des années 60. Évidemment, le tout premier arrangeur, producteur, dont vous connaissez sans doute le nom sans toujours savoir à l'origine de quoi il est, c'est Burt Bacharach. Burt Bacharach, c'est un peu le parrain de cette pop orchestrale. Dans les années 60, c'est lui qui, pour la première fois, va imaginer l'idée d'introduire des arrangements très sophistiqués dans ces tubes qui sont pourtant véritablement écrits comme des tubes de pop. La pop qui s'écrivait toujours avec trois guitares, une basse, une batterie, à la rigueur, un clavier, va devenir un moment très orchestral dans Walk On By, un tube absolument magnifique chanté par la grande Dionne Warwick en 1963. Écoutez, mélange constant que ensuite reproduira Burt Bacharach tout au long de sa carrière qui va aligner ses succès. C'est lui qui donne naissance au terme de pop baroque, même si le terme de baroque n'est absolument pas le bon, on y reviendra.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by,
stop,
stop. Walk on by,
stop,
stop. Walk on by.
Dionne Warwick, qu'on vous invite à aller regarder si vous pouvez la trouver sur certaines plateformes de vidéos qui chantent cette chanson sur les toits de la maison de la radio. Et on aime beaucoup ça avec ces cordes qui arrivent au début du deuxième couplet de ce Walk On By et qui signent d'une certaine manière une ampleur inouïe pour cette chanson qu'on peut chanter et qu'on pourrait même orchestrer de manière extrêmement pop, simple et efficace et qui devient magistrale grâce à cette idée de Burt Bacharach d'introduire sur une rythmique, une matrice très pop, cette enveloppante orchestration qui à la fois relève du jazz et évidemment aussi de la musique classique. Car oui, il y avait d'un côté, en ce début des années 60, la pop, on l'a dit, deux guitares, une basse, une batterie, à la rigueur un clavier, et de l'autre, la grande chanson française ou la grande chanson italienne ou la grande chanson de variété américaine qui, elle, parfois, était accompagnée d'un grand orchestre qui, dans sa version Ennio Morricone, on l'entend bien dans l'œuvre d'Andrea Laszlo et des Simone, la référence est très présente, relève de la tradition purement classique, mais aussi du big band de jazz. Les grands novateurs de cette année 60 vont organiser le mariage de ces deux écoles qui ne se rencontraient jusqu'ici pas du tout. Les années phares, ce seront les années 66, 67, 68, 69. Vous allez voir que quasiment tous les titres que nous passerons aujourd'hui datent de cette période-là. Ceux qui vont d'une certaine manière tout révolutionner, tout mettre à plat, évidemment, ce sont les Beach Boys et le génie qui préside à cette œuvre, à savoir Brian Wilson, qui en 66 et en 67 va faire paraître deux albums qui vont littéralement mettre le monde de la pop à plat. C'est d'abord Pet Sounds et ensuite les Smile Sessions. Brian Wilson est à l'époque encore assez et déjà aux prises avec une maladie mentale, ce qui se ressent très bien dans ces deux disques qui n'ont pas la même couleur mais qui pourtant tous les deux amènent des audaces bouleversantes. On sort des codes classiques évidemment de la pop, on amène à la fois des orchestres complets, du clavecin, des cloches et surtout des chœurs qui vont fonctionner eux-mêmes comme un orchestre. C'est la grande capacité de Wilson à faire des chœurs, à prendre des voix, faire chanter 3-4 voix ensemble et à les réenregistrer plusieurs fois jusqu'à faire des chœurs qui rassemblent en tout plus d'une trentaine de voix. Pet Sounds et Smile Sessions, on connaît évidemment Good Vibrations ou God Only Knows qu'on a beaucoup joué dans cette série musicale. On a fait d'autres choix pour que vous entendiez à la fois la grande richesse et la grande complexité de ces deux albums qui fonctionnent comme les deux faces d'une même pièce, comme Brian Wilson à la fin de sa vie l'expliquait à la BBC.
I think Pet Sounds was an emotional and
spiritual. Je crois que Pet Sounds était une expérience émotionnelle, très inspirante,
music,
mais c'était une musique très sérieuse, très triste, car j'étais triste.
So it was an emotional. Smile,
Smile, de l'autre côté, était très joyeux, très jovial. Il y avait des beats très joyeux, des chœurs très intéressants, beaucoup plus versatiles. Il y avait plus de 30 voix qu'on avait mixées ensemble. écoutez Walk Away, Rockin' Renee du groupe The Left Bank, la rive gauche. On est en 1966 et ce son paraît aujourd'hui très classique. On a l'impression qu'on l'a déjà entendu et pourtant il était très nouveau à l'époque puisqu'on est un an avant l'album de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles qui va ressembler beaucoup à cela. C'est là qu'on date l'acte de naissance de ce qu'on a appelé ensuite la pop baroque. 66, ce groupe est un groupe américain qui souhaite, un petit peu comme les Beach Boys d'ailleurs, apporter sa réponse à la British Invasion, c'est-à-dire à cette invention de la pop qui vient d'outre-Atlantique. Et c'est donc Michael Brown qui écrit cette chanson et qui a l'idée de la faire soutenir, hein, une chanson pop avec une batterie bien classique comme il faut, issue de la pop. Et c'est lui qui a l'idée d'y adjoindre des cordes, un clavecin discret mais néanmoins extrêmement présent et qui à l'époque a beaucoup surpris, et à l'intérieur ce solo de flûte qui coupe la chanson en deux, Walk Away Renee, qui va d'une certaine manière asseoir ce genre de la pop baroque. On oubliera ensuite un peu trop que Michael Brown a continué sa carrière avec lui aussi en filant ce thème de la baroque pop avec un nouveau groupe qui s'appellera Montage, qui lui se recentrera encore plus sur le piano. Vous l'entendez bien, ici, pas d'instrument baroque à part le clavecin. En réalité, la pop, quand on la dit baroque, fait plutôt référence à l'utilisation à la fois d'une notion orchestrale et d'instruments qui sont plutôt ceux de la musique dite classique, donc qui va du XVIIe au XVIIIe siècle jusqu'à l'avènement de l'orchestre romantique. Donc c'est à la fois une pop qui utilise la musique classique, mais qui l'utilise de manière baroque. Vous l'avez vraiment bien entendu dans ce Cabin Essence, titre trop peu joué, on le disait, des Beach Boys, qui joue avec à peu près toutes les sonorités. C'est en cela qu'il est baroque, c'est qu'il s'autorise de nombreuses improvisations, de nouveaux effets de surprise. Montage, lui, le deuxième groupe de Michael Brown, donc un des cofondateurs de cette pop baroque, va se recentrer sur le piano et sur l'équilibre assez fragile entre la voix du chanteur et une orchestration qui se fait de plus en plus élégiaque, un peu moins gaie que les exemples de pop baroque qu'on vient d'entendre, ces premiers exemples, ouvrant la voie à toute une série de musiciens dans laquelle des gens comme Lana Del Rey Ways Blood peuvent se reconnaître.
Say
Michael Brown en liberté dans son groupe montage avec ce titre Grand Pianist qui lui tire beaucoup plus du côté du baroque. Il y a des accents de Bach dans ce piano et des chœurs qui se font à la fois frétillants et presque ironiques. On n'est pas sur une chanson officiellement gay. Michael Brown, donc la tête pensante de Left Banke qui avait signé les débuts de la pop baroque avec Walk Away Renée en 66, est assez vite imité ou en tout cas sert de source d'inspiration aux musiciens qui dominent le monde à l'époque, à savoir les Beatles, qui dans leurs deux albums suivants, eux aussi, vont, grâce à l'apport non négligeable, on le sait comme toujours, de leur producteur, qui était aussi compositeur George Martin, intégrer de plus en plus des arrangements de musique classique. On a évidemment très bien en tête Eleanor Rigby. On aime beaucoup se rappeler de ce sublime exemple de « She's Leaving Home », un titre dans lequel John Lennon raconte la fugue d'une jeune fille, fugue tragique, qui s'accompagne de cordes et de chœurs, très baroque, en tout cas très classique.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. Dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat just so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves.
Oh.
We struggle hard all our lives to get by.
She's leaving. Is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
What did we do that was wrong?
Home, chanson éminemment issue de la pop baroque, une des plus pop baroques des chansons des Beatles, évidemment. Baroque dans tous les sens du terme. Il y a évidemment la présence de la harpe en introduction, il y a la présence des cordes, ces violoncelles extrêmement graves qui à la fois sont dans un apparent calme, qui représentent les parents, et puis les staccato très angoissants des cordes. Cette décision aussi de donner voix aux deux camps, la voix de narration qui chante la chanson, et des chœurs très aigus qui donnent la parole parle aux parents, parents à la fois trop prudes et parents inquiets. La pop baroque façon Beatles, avec des arrangements donc véritablement très musique classique, qui ouvre une nouvelle voie, car l'année suivante arrive l'un des chefs-d'œuvre, l'un des sommets de la pop baroque, qui, elle, ne s'inscrit plus du tout, disons, dans la même matrice, alors que chez les Beatles, on était carrément dans presque une invitation à composer, en tout cas un thème qui s'était complètement fondu dans une vision classique, une vision orchestrale. On va avoir un auteur, compositeur, chanteur, qui lui va vraiment vouloir faire se rencontrer la pop, la funk et... disons, les grandes qualités orchestrales des musiciens avec qui il joue. Barry Ryan va prendre le monde à son en 1968 avec une chanson fleuve, une chanson qui s'accorde une immense entracte en son milieu. C'est Héloïse. Est-ce qu'on peut véritablement parler de pop baroque? Oui. Est-ce que la référence à la musique classique est évidente? Beaucoup moins en tout cas que chez les Beatles. Peut-être surtout dans l'ambition. Cette chanson est une chanson presque totémique. C'est elle, d'ailleurs, dit-on, qui est à l'origine de l'envie chez Freddie Mercury, 20 ans plus tard, de composer Bohemian Rhapsody. C'est un opéra en soi. C'est Héloïse qui sera repris immédiatement dès sa sortie dans plus de 10 pays. À la guitare, dans cet enregistrement titanesque, on retrouve deux légendes, à savoir Jimmy Page et John Paul Jones, qui ensuite rejoindront Led Zeppelin. Ça, c'est pour le côté pop et pour le côté rock. Deux orchestres. Et cette chanson est enregistrée en deux prises dans les studios IBC en 1968. Et à l'époque, il y a plus de 60 personnes derrière la console qui veulent assister au mixage de ce titre titanesque. Héloïse, en entier, pour vous, maintenant.
She goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, her love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay,
I know you'd stay.
J'aime penser que je fais de la musique atemporelle. Je n'appartiens à aucun courant. J'ai l'impression que les années 60 et 70 sont toujours là. Elles ont juste été recouvertes par une peinture un peu cheap. Je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de sens artistique, beaucoup plus d'argent qui allait au bon endroit, en fait. La musique à la radio, la musique mainstream, était beaucoup plus intéressante. Donc oui, je pense que c'était un âge d'or. Il y avait beaucoup plus de vrais musiciens, en fait. C'était moins quelque chose qui tournait autour de la tête que vous aviez, et de l'argent aussi, qu'aujourd'hui. Les choses étaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus brutes. Moi, je crois que j'essaye de produire cette musique qui sonne un peu parfaitement, comme à l'époque. Je la veux un peu nostalgique dans le sens archétypal du terme, au sens où on ressentirait cette chaleur, ce côté organique qu'il y avait à l'époque. En ajoutant évidemment un aspect futuristique par les sonorités qu'apporte la technologie d'aujourd'hui, pour créer quelque chose auquel notre génération en 2023 peut s'accrocher.
Sitting at this party, wondering if anyone knows me, really sees who I am. Oh, it's been so long since I everybody splits apart.
La Californienne Ways Blood, qui a fait paraître en cette fin d'année 2022 And in the Darkness, Hearts Aglow. Et dans l'obscurité, les cœurs s'embrassent, ou les cœurs s'embrasent, ou les cœurs resplendissent, très beau lapsus. Un disque à la fois rayonnant et assez sombre. Elle est, on le pense, l'une des dignes héritières de cette pop baroque. Pop baroque qui gagne du terrain. On la compare souvent à Lana Del Rey, avec qui elle a beaucoup chanté. Comme elle, elle offre une espèce de relecture de l'Americana dont elle est issue, elle qui a été élevée par une famille extrêmement religieuse, mais qui est passée par à peu près tous les courants, à la fois spirituels et philosophiques, qui l'a formée à écouter du punk dans sa jeunesse. Donc elle vient vraiment à la fois de cette grande tradition du gospel et de cette grande tradition punk. Ways Blood, qui arrive avec un premier puis un deuxième album de plus en plus orchestraux, de plus en plus baroque, dans le sens où les chansons s'allongent. On est sur un titre qui est presque aussi long que celui de Barry Ryan avec Héloïse. Ways Blood, qui d'une certaine manière reprend tous les éléments de la musique liturgique avec laquelle elle a grandi, des orgues, des cordes, beaucoup de chœurs. On l'entendait ici, une harpe, le tout revisité avec évidemment les technologies d'aujourd'hui, ce qui donne un mélange à la fois doux, amer et complètement planant. Elle trouve aussi, elle le dit d'ailleurs souvent, pas mal de ses inspirations dans cette musique des années 70 qu'elle encensait dans l'archive que je vous ai traduit juste avant qu'on la joue. Et elle fait souvent référence à l'un des papes, l'un des pontes, l'un des titans de cette pop baroque, qui a connu un succès très médiocre lorsqu'il a produit ses quatre albums, les quatre albums qui ont ancré son style, redécouvert, devenu culte. Il s'agit évidemment de Scott Walker, qu'on ne pouvait pas ne pas jouer. Quatre albums qu'on vous invite à revisiter. Il a notamment beaucoup repris Jacques Brel, qu'il aimait beaucoup, notamment parce que Brel se faisait toujours accompagner de grands orchestres. Comment ne pas jouer au moins un extrait de l'un de ses chefs-d'œuvre, Plastic Palace People.
It's not just me. Over the rooftop sails Billy, a string tied to his underwear. Through cobblestone streets a child races and shouts, Billy, come down from there. My mother's calling, his voice whimpers, a string clutched in his tiny hand. Not till I've seen the skies not lit up in tears, child, try and understand. Don't pull the string, don't bring me down, don't make me laugh. Plastic palace people sing silent songs. They've dreamed too long, their memories just stare. Plastic palace Alice, she steals her cars, tomorrow deals with deafening despair.
Scott Walker, pompe, pape de la pop baroque qui lui apporte un côté très crooner et qui s'amuse avec des arrangements, vous l'avez entendu, complètement oniriques. Un vrai maître qui a beaucoup influencé, même si ses disques se vendaient relativement mal à l'époque, qui a beaucoup influencé notamment ceux qui seront, ceux qu'on désignera comme les héritiers de la pop baroque. Il y a tout un mouvement de chamber pop qui naît notamment au Royaume-Uni dans les années 90, qui se construit un peu contre le son très punk et post-punk, mais l'un des groupes qui nous paraît les plus emblématiques du renouveau de la pop baroque, en tout cas identifié comme tel, car aujourd'hui Wasteblood et Lana Del Rey ne sont pas des héritières légitimes auprès d'une certaine presse de cette pop baroque, s'il est un groupe qui a véritablement tracé son sillon dans cette logique-là et qui reste fidèle à Scott Walker, dont d'ailleurs ils ont repris un album entier de chansons, c'est évidemment The Divine Comedy qui est encore actif. Divine Comedy qui trouve ses influences à la fois chez Scott Walker et chez évidemment toute une foule de cinéastes. C'est un des points communs de tous ces artistes, de trouver leurs inspirations, de se revendiquer de mouvements plutôt artistiques. On sait que Lana Del Rey cite parmi ses inspirations Hitchcock, évidemment, et David Lynch. The Divine Comedy, dont il serait impossible de choisir un titre, et pourtant, nous l'avons fait avec notre réalisateur Colin Gruel. Vous entendrez ici cette réinterprétation de la pop ancestrale, en tout cas cette manière de la réinvestir, qui est très intéressante, parce qu'à la fois elle cumule les références, mais elle s'est véritablement inventé un style qui lui est propre et qui va bien au-delà de la simple addition des influences, comme on l'entend ici dans Our Mutual Friend.
No matter how I try, I just can't get her out of my mind. And when I sleep, I visualize her. I saw her in the pub. I met her later at the nightclub. A mutual friend introduced us. We talked about the noise and how it's hard to hear your own voice above the beat and the sub. Talked in the back of our friend's car as we all went back to his
said it's like the soundtrack to our lives, and she said true, it's not unusual. Then privately we danced, but couldn't seem to keep our balance. A drunken haze had come upon us. We sank down to floor, and we sang a song that I can't sing anymore. And then we kissed and fell unconscious. Thank you.
stumbled out to find the bathroom, but all I found was her wrapped around another lover. No longer then is he out.
Ah, la pop baroque, voire opératique de The Divine Comedy dans Our Mutual Friend ici. On a l'impression que l'accompagnement à l'orchestre est presque digne des meilleures partitions hein, de musique de film des années 60 ou 70. Il est une autre, évidemment, chanteuse qui est souvent classée dans le renouveau de la pop baroque, dans un genre tout à fait différent, même si elle aussi est extrêmement produite, une musique extrêmement cinématographique. C'est Lana Del Rey qui qualifie sa musique de pop baroque, de dream pop, de sad core. Lana Del Rey qui a explosé, vous le savez, au début de ces années 2010, qui semble marquer un peu cette décennie et qui va aborder la nouvelle avec un album extrêmement attendu à paraître en mars. Lana Del Rey qui avait un peu bouleversé le jeu avec Video Games, par exemple, qui s'installait avec de très grandes nappes d'orgue dans des clips qu'elle réalisait elle-même. Lana Del Rey qui, d'ailleurs, a été invitée à réaliser la bande originale, s'est invitée dans la bande originale dans des films les plus iconiques ou en tout cas les plus délicieusement surannées de la décennie, à savoir adaptation cinématographique de Great Gatsby. C'est cette chanson Norman Fucking Rockwell qu'on va écouter, qui nous montre une autre piste possible pour cette pop baroque qui n'a, vous l'avez entendu, absolument pas dit son dernier mot, et on en est ravis.
Goddamn man child, you fucked me so good that I almost said I love you. You're fine and you're wild, but you don't know the half of the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news, change that, and I can't change your mood. Cause you're just a man, it's just what you do.
Des cordes, des harmonicas, des réverbérations chez Lana Del Rey, évidemment. Lana Del Rey qui se vit comme une gangsta, Nancy Sinatra, qui a été la grande absente de cette émission. Évidemment, il est encore bien d'autres gens qu'on aurait pu jouer et qu'on continuera à jouer, notamment dans notre série Arrangeur, qu'on vous recommande chaudement. Merci à Luke Vovi à la préparation, à Colin Gruel à la réalisation et dans quelles conditions, à Ludovic Auger, merveilleux, à la technique. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission.
You talk to the walls when the party gets boring.